RKS, RKS, RKS.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Sébastien, quel est le point commun entre Castor et Pollux, Rémus et Romulus, Jaroslav et Lev Kaczynski, Igor et Grishka Bogdanov ou encore, dans notre paysage politique, Jacques et Bernard Attali ou Jean-Louis et Bernard Debré ?
Facile, François, ce sont des jumeaux. On me souffle qu'il y a aussi le masque de fer. Enfin, les masques de fer. Ou,
voilà. Ah, ils étaient deux aussi.
Paraît-il, oui. Mais pour Castor et Pollux, c'est plus compliqué car en fait, ils étaient quatre. Issus de deux œufs différents, dont un fécondé par Zeus, le roi des dieux grecs.
Ces quatre-là étaient-ils monozygotes ou dizygotes? C'est ce que nous allons essayer de savoir au cours de l'heure qui vient en cuisinant nos invités.
Bienvenue sur RKS, l'esprit grenoblois. À 11h, la cuisine de Francis et tout de suite, le miroir des sciences.
Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Voici le Miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger.
Plus de 1,6 million de paires de jumeaux naissent chaque année dans le monde, soit 3,2 millions d'enfants jumeaux, si mes calculs sont bons. Ce qui fait près d'un bébé sur 40, et nous sommes en plein jumeau boom. Le taux de naissance gemellaire n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Pour en parler, nous sommes en studio avec deux responsables de l'association Jumeaux et Plus 38. Claudine Bévilacqua, mère d'une fille et d'un garçon né à la fin des années 90. Et Sarah Montaudon, mère de trois enfants. Une fille et un garçon jumeaux de bientôt 17 ans. Et un garçon de 7 ou 8 ans. Mesdames, que faites-vous le samedi matin quand vous n'êtes pas à la radio ?
Bonjour.
Bonjour,
moi je travaille. Voilà, je travaille dans un commerce. Donc,
Ah, et vous avez eu une autorisation de...
spéciale de mon employeur que je remercie beaucoup.
Super.
Bonjour, et eh bien moi, je prends mon café tranquille avant que les enfants se lèvent, et après les lessive, marcher, repas. Voilà, la vie de famille de maman.
La vie de famille et son plaisir. Gilles Pisson, Muséum National d'Histoire Naturelle et Institut National d'Études Démographiques, co-signe une étude sur les jumeaux qui révèle que le taux de gémellité dans le monde a augmenté en 30 ans, passant de 9,1 accouchements gémellaires pour 1000 accouchements au total dans les années 80 à 12 dans les années 2010. Il est avec nous par téléphone. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Ah voilà, on vous entend très bien. Et puis on aura un peu plus tard dans la matinée Yannick Lec, qui est lui aussi membre de votre association en Isère. Et donc nous parlerons avec lui aussi de la vie de famille et de l'éducation des jumeaux. Et puis en fin d'émission, nous rejoindra, mais il n'est pas encore là parce qu'il est privé de studio pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde compte tenu des risques sanitaires. Donc nous rejoindra Damien Bouévin, qui nous parlera lui aussi des jumeaux, des triplés et même, je crois, des trizygotes, si j'ai bien lu sa chronique. Ça existe, les trizygotes ?
Ah oui,
ben oui. Voilà.
Alors, Sarah, Claudine, une première question classique que vous devez entendre assez souvent. Est-ce que c'est vraiment différent de vivre avec des jumeaux qu'avec deux enfants d'âge différent ?
Donc je commence. Eh bien, je ne sais pas, puisque je n'ai pas deux enfants d'âge différent et je ne sais vivre
vous
qu'avec des jumeaux.
Vous n'avez pas expérimenté.
Bonne réponse.
Exact. Voilà, Sarah pourra en parler plus que moi.
Bah, même pas, parce qu'après, voilà, moi j'ai un petit troisième, mais il y a 10 ans d'écart. Donc voilà. Mais je pense que c'est différent, effectivement, d'avoir deux enfants du même âge et deux enfants d'âge rapprochés. Forcément.
Il y a une dynamique dans ces enfants, où je rapproche un petit peu votre micro, vous inquiétez pas, c'est pas pour vous agresser. Il y a une dynamique quand même particulière quand les deux enfants sont du même âge.
Il y a beaucoup, beaucoup de dynamique quand les enfants sont du même âge, puisque
oui,
ils ont
dynamique.
La même énergie de leur âge, donc ça, et puis ça commence très tôt, effectivement. Il n'y en a pas un qui se repose pendant que l'autre est agissant, les deux sont agissants ensemble, et je dirais même plus que c'est pas deux énergies ensemble, c'est deux énergies qui s'unissent et qui en forment, c'est plus. Donc c'est beaucoup d'énergie.
Une interférence constructive, comme on dirait en physique.
Oui, c'est ça.
Ouais, qui s'amplifie. Donc, du coup.
Exactement.
Alors la question qui vient juste après, très classique aussi, vrai jumeau, faux jumeau, c'est quoi la différence, très rapidement?
En fait, ils sont tous vrais, hein, ils existent. Il n'y en a pas en plastique et d'autres. Voilà, ça c'est la petite blague de l'association. Alors au niveau vrai jumeau, faux jumeau, ce que vous voulez...
Non, on peut peut-être effectivement rappeler un petit peu qu'il y a ces deux catégories. Dans un cas, on a un couple, un tandem, ou je ne sais pas comment on dit, des jumeaux absolument similaires. Et dans l'autre cas, deux enfants qui se différencient.
Comme des frères et sœurs, une fratrie avec deux embryons différents, donc ils n'ont pas forcément le même caractère, on peut avoir deux garçons, deux filles, mais on a l'exemple à l'association de filles où il y en a une qui sera plutôt garçon manqué et l'autre la petite princesse, parce que elles sont dizygotes.
Alors au-delà de cette différenciation, comment est-ce qu'on peut quand on est jumeaux? Se sentir unique, singulier, quand on grandit avec son double, son miroir? Et à quel moment ça vient?
Alors là, nous, je ne sais pas si on peut répondre, parce qu'on n'est pas...
Vous n'avez pas expérimenté pas directement.
Je pense que ça vient déjà des parents qui considéraient que ces jumeaux sont avant tout des enfants qui vivent ensemble, et pas faire un pack à chaque fois. Mmh. Enfin, nous, on a banni le mot jumeau dans le quotidien.
C'est ça.
Et on les a appelés par leur prénom. On a dit les enfants. On peut dire il y a différentes déterminations qui sont possibles. Et puis, on les élève comme individus à part entière et on essaye d'écouter leurs besoins particuliers. Donc, à partir de ce moment-là, eux peuvent se sentir uniques parce que justement, ils sont écoutés en tant qu'êtres à part entière.
C'est ça. Il faut être vigilant de pas effectivement les considérer comme une entité unique. Et même si... Alors nous, on a avec Claudine, on a un garçon et une fille, donc c'était plus facile entre guillemets. Mais pour les parents qui ont deux garçons ou deux filles, effectivement, de faire
attention. C'est vrai que la caricature qu'on a en plus depuis quelques années, c'est par exemple les défilés de Pleukadoc en Bretagne, là, ce grand rassemblement purement festif, si j'ai bien compris. Du tout, il n'y a pas de propos ni universitaire ni réflexif sur le sujet, mais du coup, ça produit des images où la ville est envahie par
des gens qui se ressemblent,
des gens qui sont habillés pareil. On est avec Gilles Pison au téléphone. Rebonjour Gilles.
Oui, rebonjour.
Alors vous êtes donc chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et puis à l'INED, à l'Institut National d'Études Démographiques. Et puis vous avez une relation avec l'association de nos amis qui sont en studio ce matin, puisque vous êtes membre du comité scientifique de la Fédération Jumeaux et Plus. Faut expliquer, donc vous êtes membre toutes les deux de l'antenne iséroise Jumeaux et Plus 30. Mais qu'il y a une fédération. Alors Gilles, vous co-signez avec deux autres chercheurs une étude mondiale inédite sur les jumeaux. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette étude?
Oui, alors il faut d'abord savoir que nous avons rassemblé toutes les statistiques disponibles et ça n'allait pas de soi pour tous les pays du monde. Alors on n'y est pas arrivé pour tous, mais on couvre une large partie du monde pour mesurer la fréquence des accouchements gémellaires et son évolution au cours des 30 dernières années. Donc, vous avez rappelé les chiffres, le taux de gémellité, il a augmenté d'un tiers depuis les années 1980. Il est passé de 9 accouchements gémellaires pour 1000 accouchements au total à l'échelle mondiale dans les années 80 à 12. Voilà. Et puis, nous avons examiné les facteurs qui étaient derrière cette hausse et il y en a deux. Il y en a deux. C'est d'une part la diffusion de l'assistance médicale à la procréation, qui est associée à un risque ou une probabilité élevée de naissances multiples.
Oui, on va peut-être parler de probabilité plus que de risque, parce que ça se passe
bien
quand même.
Oui, de probabilité plus élevée. Et puis, le retard des maternités, le fait que les femmes aient leurs enfants de plus en plus tard, dans la plupart des pays du monde. Or, la probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l'âge des femmes.
Alors, est-ce qu'on peut quantifier, Gilles, l'effet de chacun de ces deux paramètres sur la probabilité de naissance gémellaire? Par exemple, en procréation médicale assistée, quel est le taux de naissance gémellaire?
Dans les pays développés qui ont connu le plus cette hausse, en moyenne, le taux de gémellité a doublé, lui, hein, dans les pays développés depuis les années 70. Pour un quart à un tiers, ça vient du retard des maternités, et pour le restant, donc un peu plus des deux tiers, de la diffusion de l'assistance médicale à la procréation.
Voilà. Alors, il faut noter que c'est le taux de gémelléité dizygote qui varie.
Alors, dans les statistiques, par exemple, d'état civil, hein, parce que quand vous avez un enfant, vous le déclarez à la mairie, à l'état civil, et quand c'est des jumeaux, vous-même ne savez pas si c'est des dizygotes ou des monozygotes. L'état civil ne relève pas cette information, donc ça ne figure pas dans les statistiques. Hein. Donc les deux types de jumeaux sont confondus dans ces chiffres. Mais on sait que ce qui a changé depuis 30 ans, c'est la fréquence des jumeaux dizygotes, donc ceux sont issus d'une double ovulation au cours du même cycle, vous en parliez tout à l'heure, hein. Il y a deux ovules qui sont émis et tous les deux sont fécondés et donnent donc un embryon qui se développe, et donc ces deux jumeaux dizygotes sont pas plus différents mais pas plus ressemblants que deux frères et sœurs. D'ailleurs, ils sont de même sexe ou de sexe différent dans un cas sur deux. Alors que les jumeaux monozygotes, vous en avez parlé tout à l'heure,
Ben,
c'est un phénomène qui est différent. C'est un œuf nouvellement fécondé, un embryon, qui se scinde en deux. Donc c'est du clonage naturel, et c'est le fait donc d'une cellule, un embryon, au premier stade de son développement, et la probabilité qu'il se scinde en deux, elle est la même quel que soit l'âge de la femme, quelle que soit la région du monde, et aussi quelle que soit l'espèce de mammifère. La probabilité qu'un œuf nouvellement fécondé de mammifère se scinde en deux de façon naturelle, ce clonage naturel, est de 4 pour 1000. Et donc, c'est la fréquence des grossesses gémellaires monozygotes, aussi dans l'espèce humaine, et elle n'a pas changé en 30 ans. Donc, cette hausse de la fréquence des jumeaux à l'échelle mondiale a augmenter la part des jumeaux dizygotes dans l'ensemble.
Gilles Pison, vous restez avec nous. Nous sommes toujours avec Claudine Bevilacqua et Sarah Montaudon. Vous êtes donc représentante de l'association Jumeaux et Plus 38 et Gilles Pison donc du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous continuons dans un instant avec Sébastien Berger au Miroir des Sciences à explorer cette question des jumeaux.
Yeah.
Vous écoutez le Miroir des Sciences sur RKS 97 FM et ce matin nous parlons des jumeaux et moi j'avais dans mes papiers une petite anecdote qui concerne Paul Langevin. On m'a répondu Paul Langevin c'est une rue à Fontaine, vous allez voir c'est pas qu'une rue à Fontaine quand même. Alors, mesdames, monsieur, vous connaissez l'expérience des jumeaux de Langevin ? Ça vous dit quelque chose ?
Pas du tout.
Non, l'expérience de pensée des voyageurs de l'espace est présentée par Paul Langevin en 1911. Et à l'époque, Langevin met en scène des personnes de même âge. Plus tard, on supposera que ce sont des jumeaux. Langevin est un grand physicien français du début du XXe siècle, surtout connu pour l'introduction de la théorie de la relativité d'Albert Einstein en France. Alors, l'expérience suppose qu'on envoie un des deux jumeaux, un des deux personnages semblables, dans l'espace pour un voyage à la vitesse qui frise celle de la lumière. Autant dire que donc là, on est bien dans le champ des expériences de pensée, parce qu'on n'est pas encore tout à fait capable de faire ça. À son retour, ou alors le jumeau voyageur serait dans un état épouvantable. À son retour sur Terre, l'astronaute serait plus jeune que son frère à cause de la contraction du temps démontrée par la loi de la relativité restreinte établie par Albert Einstein. Je vais lentement pour vous permettre de, au fur et à mesure de suivre. Ça m'a pris un petit peu de temps pour intégrer l'ensemble de l'histoire. Toutefois, nous dit Wikipédia, celui qui voyage est en droit de considérer qu'il est immobile dans son propre référentiel. Pour lui, il est dans sa capsule spatiale et il dit ben non, rien ne bouge, c'est l'autre qui est parti là-bas, très très loin. Hein ? Et donc, si on refait les calculs, c'est son frère qui est resté terrien, qui s'éloigne à grande vitesse de lui, et il pourrait donc en conclure quoi donc ? Que c'est son frère resté sur Terre qui est plus jeune à la fin du voyage. Ainsi, chaque jumeau pense, selon les lois de la relativité restreinte, retrouver l'autre plus jeune que lui. Et c'est comme ça qu'on aboutit à un paradoxe qui fait vibrer la communauté scientifique. Alors, il y aura des éléments de réponse qui seront apportés par l'extension de la relativité au cadre de la relativité générale.
François, tu veux dire que tu ne vas pas nous donner la réponse là maintenant?
Je ne vais pas vous donner la réponse et j'invite d'ailleurs les auditeurs éventuellement à donner leur propre réponse sur les réseaux sociaux de RKS, le Facebook par exemple. Voilà, Sébastien.
Très bien. Alors, Gilles Pison, tout à l'heure, à l'instant, nous faisait part de cette augmentation du nombre de naissances gémellaires dans la population. Sarah et Claudine, vous qui militez dans cette association Jumeaux et Plus, qui a justement un âge avoisinant les 30 ans, est-ce que vous avez pu constater cette augmentation ? Alors, ou à l'échelle peut-être de la Fédération nationale ?
Il est difficile de constater l'augmentation parce qu'en fait, c'est les familles qui viennent nous voir et qui viennent adhérer à l'association. Donc nous, on ne va pas représenter toutes les familles isaroises de parents de multiples. Donc je ne peux pas répondre à ça. Après, on a un nombre de familles qui reste constante ces dernières années, adhérente. Mais voilà, après, il faudrait savoir connaître les chiffres en Isère, en fait, des naissances globales en Isère, et je ne les connais pas. J'avoue que là, je n'ai pas les réponses.
Alors, Gilles, vous nous disiez, vous êtes toujours au téléphone avec nous, en principe. Vous nous disiez donc que les monozygotes, le taux de monozygotes était toujours le même et que c'était les croissances dizygotes, je vais y arriver, qui augmentaient, qui représentaient la principale augmentation. Et pourtant, il me semble que ici en Isère, on a peut-être l'esquisse d'une autre expérience, non ? Dites-nous.
Oui, je disais hors antenne que donc moi je suis la coordinatrice, c'est moi qui reçois les futures familles au téléphone et en ce moment je n'ai que des grossesses monocoriales biamiotiques, monozygotes, quoi. Voilà, je n'ai que ça, donc on doit concentrer au mois d'avril.
Oui, Gilles, est-ce qu'il y a une variation saisonnière quand même des taux de...
C'est ça.
Mais j'ai une autre explication.
Allez-y.
Il faudrait voir quelle est la part des monozygotes, des monocoriales dans vos nouvelles adhésions.
Oui.
Hein. Mais comme les grossesses de jumeaux, en général, demande plus de suivi. Hein. Alors, le fait d'avoir des jumeaux, c'est pas un problème, c'est pas une pathologie. Hein. Et donc, ça se base bien la plupart du temps. Mais il se trouve que le jumeau boom, en particulier dont on parle là, hein, ce doublement de la fréquence des jumeaux en France depuis 30 ans, et probablement aussi en Isère, hein, il n'y a pas de raison que ça soit différent, il questionne la santé publique, parce que même si ce n'est pas une pathologie, les enfants jumeaux, ils sont plus fragiles que les enfants qui naissent simples, au moins au début de la vie, donc ils demandent plus de soins. Leur mortalité infantile, par exemple, est 4 fois plus élevée que celle des enfants singletons, même si elle est très faible, hein, c'est un événement très rare. Hein.
Et puis, il y a aussi comment on l'explique, ça? C'est
C'est que plus souvent que les enfants naissent simples, ils sont de petit poids, ils naissent prématurés, pas tous, hein, mais l'accouchement, plus fréquemment, mais là aussi c'est rare, présente des complications. Donc le résultat, c'est qu'ils sont plus fragiles, au moins au tout début de la vie, hein, donc ce qui se traduit par un risque de décès plus élevé que les...
Sarah et Claudine acquiescent.
Mais encore une fois, c'est très faible, hein. Et puis, par ailleurs, c'est très sympathique d'avoir des jumeaux et la plupart des familles se débrouillent bien, mais c'est quand même un défi, hein, pour s'occuper de deux bébés de même âge en même temps. Et donc, pour rappel, les pouvoirs publics, les collèges de médecins se sont préoccupés de cette hausse de la fréquence des grossesses gémellaires liée à l'activité d'AMP. Et du coup, ils ont modifié leur pratique médicale depuis une trentaine d'années afin que l'AMP aboutisse à des grossesses uniques plutôt que multiples. Parce que la plupart des femmes ou des couples qui viennent consulter pour une assistance à la procréation, ils souhaitent pas avoir des jumeaux. Ça arrive, hein, pour certains, mais et donc la plupart, ils souhaitent avoir une grossesse, mais une grossesse unique.
Alors, ça, c'est une question. Je vous interromps juste un instant.
Au début de l'AMP, elle aboutissait à pas mal de grossesses multiples. Voilà.
Oui, je vous interromps, Gilles, juste un instant pour savoir si effectivement, tiens, je me tourne vers nos deux invités en studio, est-ce qu'il y a des gens qui font le projet d'avoir des jumeaux, pour qui c'est vraiment une envie en tant que telle, au-delà de l'idée d'avoir un enfant?
Alors, le projet, non, mais par contre, quand on a des jumeaux, on a de temps en temps des gens qui nous disent « Ah, ça aurait été mon rêve d'avoir des jumeaux ». Il y a des gens qui savent qu'ils ont peut-être des possibilités d'avoir des jumeaux parce que dans la famille il y a déjà des jumeaux. Ouais. Et effectivement, il s'avère que c'est quelque chose qui peut revenir. Le projet, je ne sais pas, faudrait demander aux médecins savoir si.
Bon, une nouvelle idée d'étude pour Gilles Pison, peut-être.
Non, mais attendez, il y a quand même le cas des femmes ou des couples qui tout d'un coup. Décide d'avoir un enfant à 40 ans, 42 ans, qui, mettons, n'y arrive pas tout seul et qui, donc, vont consulter. Alors, c'est vrai que comme le temps qui reste pour la femme est relativement court, ça peut arriver que la femme, le couple, souhaite avoir deux enfants d'un coup parce que le temps est court. Mais c'est des cas rares et donc probablement la plupart des personnes qui consultent, qui demandent de l'aide pour la procréation, elles souhaitent une naissance simple. Alors, pour revenir à la question, pourquoi il y avait beaucoup de sollicitations de personnes qui avaient des jumeaux monozygotes qui étaient avec une grossesse.
Ah, vous avez une explication?
Voilà, on était resté sur la question. Et alors, il faut savoir que, je vous disais, les grossesses doubles, ou triple, bien sûr, demande plus de suivi. Hein, il y a plus de consultations prénatales, on va voir plus souvent son gynécologue, obstétricien. Et c'est d'autant plus vrai avec les grossesses monozygotes et monocoriales, qui demandent à être suivies plus précocement. Et du coup, quand une femme enceinte apprend qu'elle a ce type de grossesse, peut-être qu'elle est à la demande de conseils, d'aide.
Ah, elle est plus sensible et elle va plus naturellement aller vers l'association.
Voilà, ça doit être ça.
Gilles Pison, on vous remercie. On va continuer avec nos invités en studio et puis on vous laisse préparer peut-être d'autres études et revenir vers nous un peu plus tard à une autre occasion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Eh bien, bonne suite de l'émission.
Merci,
au revoir.
Merci, à bientôt.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Depuis l'enfance que je connais Pauline, je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines, il n'y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Oh Pauline, pendue à tes bottines, les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine, je les comprenais, je ne leur en voulais pas. On a suivi nos routes un peu en parallèle, moi surmontant mes doutes, toi de plus en plus belle. Qui me trouve je ne sais quoi, mais tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi. Oh Pauline, j'ai pas ta poitrine, mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh Pauline, moulée dans ton jean, tu sais que je ne peux pas lutter contre ça. Je ne suis pas stupide, tu peux claquer des doigts, en faire un chien de cire qui ne vivra que pour toi. Ah ah ah, pour toi ça n'est qu'un jeu, tu l'oublieras demain. Moi je suis folle amoureuse, s'il me quitte c'est la fin. S'il me quitte c'est la fin. Oh Pauline, rose pleine d'épines, tu le blesseras un jour, alors laisse-le-moi. Oh Pauline, range tes canines, laisse le bonheur aux autres, moins pour cette fois. Oh Pauline, oh Pauline, laisse le bonheur aux autres, moins pour cette fois. Oh Pauline, oh Pauline, laisse le bonheur aux autres.
Pauline sur RKS, Pomme. Alors, on reprend le cours du Miroir des Sciences. Nous sommes toujours avec Claudine Bevilacqua et Sarah Montandon de l'association Jumeaux et Plus 38 et avec Sébastien Berger. Claudine et Sarah, vous êtes bien occupées. Ah oui, puis au téléphone, alors il faut que j'appuie sur ce bouton, voilà. Et normalement, nous avons Yannick qui est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Salut Yannick.
Alors Yannick, salut, vous n'allez pas participer au premier jeu, je dirais, de cette séquence, parce que il faut que je vous dise que Claudine et Sarah sont très occupées. Il se passe des choses sur la table du studio. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui. Alors, vous nous avez donné un sac avec plein de jolis miroirs de différentes tailles, différentes formes, et on devait en choisir un. Voilà, ce qu'on a fait toutes les deux.
Alors oui,
après,
alors
pas,
dites-nous.
Il faut le décrire. Alors là, moi j'en ai trouvé un super beau, alors je ne sais pas en quoi il est. Bon, avec plein de petits décors, il fait très miroir de princesse. Et je l'ai choisi parce que Sarah, ça veut dire princesse en hébreu. Donc voilà, moi je le trouve beau, c'est chic. Il est lourd. Hein.
Et qu'est-ce qui vous inspire ? C'est juste par coup de cœur, c'est
ouais,
celui que vous beauté. Préférez.
Oui, voilà.
Vous n'avez pas
j'en
ouvert
pas
la petite enveloppe,
ça.
Là, il y avait un d'autres choix, vous pouvez regarder. Pardon. Et Claudine ?
Alors moi, j'ai choisi un miroir rond, je ne sais pas, articulé. J'aime bien parce que c'est assez technique comme truc, mais c'est surtout que ça me fait penser au ventre rond quand on est enceinte de jumeaux. Ah, et je
oui.
peux vous dire qu'on ressort plus à des ballons.
Il est grossissant de l'autre côté, il est double face.
En plus, il est grossissant, donc super. Et oui, ça me fait penser au ventre que j'avais quand j'attendais mes deux enfants. et qui était assez important, parce qu'il faut savoir que une femme qui attend des jumeaux, à 6 mois, elle a la circonférence d'un ventre d'une femme qui attend un seul enfant. Donc imaginez quand on arrive à 9 mois.
De qui attend un seul enfant quand elle est arrivée
quand
à terme.
Quand elle est arrivée à terme, oui, c'est vrai, j'ai pas précisé. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on atteint les 9 mois. En règle générale, on ne les atteint pas. D'ailleurs, on s'arrête plutôt vers 8 mois. Mais c'est très compliqué à gérer un ventre avec deux enfants dedans.
J'imagine, déjà voilà. Avec un.
Oui, déjà avec un.
Alors, Claudine et Sarah, Jumeaux et Plus, c'est un peu l'association de référence pour les parents d'enfants multiples en France. Qu'est-ce qui fait cette réputation?
Alors, la réputation, c'est déjà que la fédération, elle existe depuis 1979. Nous, en Isère, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Donc, je pense que si on n'était pas crédible, l'association aurait déjà disparu depuis longtemps. Et la force, c'est que, eh bien, on est, comme Claudine et moi, il y a des parents de grands-enfants qui sont là aussi pour avoir le recul nécessaire, avoir entendu plein d'histoires de vie, de conseils, et de pouvoir les retransmettre aux futurs parents qui nous contactent ou qui viennent nous voir.
Alors, on va regarder tout de suite, on va faire un benchmark, puisqu'au téléphone, nous sommes avec Yannick Leck, qui, lui, est un adhérent de l'association. Oui. Comment vous est venue l'idée, et à quel moment de rentrer en contact avec cette association, Yannick?
Ben en fait, le moment de la surprise, c'est vrai que les premières questions qui viennent pour nous, c'était matériel. On dit, ok, alors nombre de chambres, est-ce que la voiture va être assez grande, etc. Et c'est vrai que l'association met à disposition du matériel, donc poussettes, etc. Et donc on s'est rapproché de cette association. Et en fait, très vite, alors après on a été aidé par la famille, etc., qui ont pu nous prêter des choses, donc on n'a pas eu besoin de matériel, mais très vite on a intégré les groupes d'échange, comme disait Sarah. Et c'est vrai que là, on a retrouvé des conseils bienveillants. Donc, il n'y avait pas de jugement, etc., où les gens nous disaient, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Non, c'était vraiment un partage d'expérience de chacun. Et voilà, en tant que futurs parents, on est arrivé en bénéficiant de ces conseils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que nos enfants ont 4 ans, on peut rendre l'appareil et partager notre expérience maintenant avec les futurs parents.
C'est ça le principe de cette association, une sorte de mentorat aussi
C'est l'entraide. Du soutien moral, de l'entraide matérielle. Donc effectivement, le soutien moral, il est important, parce que même si on n'est pas différent des autres parents, on a quand même des questionnements un peu différents à l'arrivée des enfants, ou enfin même pendant la grossesse. Et il n'y a pas de jugement, on est entre nous. Et effectivement, lors des cafés papotes qu'on organise tous les mois, par exemple, et où les familles se retrouvent, et ben voilà, on peut très bien dire, oh, moi j'ai passé une nuit affreuse, mes enfants étaient terribles. On ne va pas être jugé, quoi, parce qu'on a tous vécu la même chose, on vit tous la même chose. Et ça fait du bien, des fois, de vider son sac, quoi. Enfin, voilà, et de pouvoir aussi entendre des conseils, des vieilles sages comme nous.
Et puis, c'est un lieu d'échange.
C'est ça, on échange.
Belle voilà. Solidarité. Oui. On se retrouve dans un instant pour la dernière séquence. Et si vous voulez, on parlera de l'éducation des enfants. Là, on vient de parler du partage des expériences ou des soucis des parents. On va revenir et avec Yannick et avec vous deux sur ces questions. On se retrouve dans un instant sur RKS.
Bien sûr, on me klaxonne sur Haussmann à l'envers. Moi je n'entends personne, je repense à hier. Bien sûr on me klaxonne sur Haussmann à l'envers. Moi je n'entends personne, je repense à hier, je repense à hier. Quand cigarette après cigarette, je cherchais le chemin centimètre centimètre par centimètre pour approcher ta main là sur la nappe. Je pile ou je passe, que dira-t-il en face si je pousse les tasses, si ma bouche l'attrape, cap ou pas cap, j'hésite et m'échappe. J'aimerais qu'il le fasse si je manque d'audace, qu'il se lance à ma place ce soir sur ma bicyclette. Je me demande un peu ce qui se passe dans ta tête et je ferme les yeux. Cap ou pas cap, je pile ou je passe, freineront-ils en face si ma route les croise, si ma course dérape. Cap ou pas cap, je pile ou je passe, que dira-t-il en face si je pousse les tasses, si ma bouche l'embrasse. Alors qu'on me klaxonne sur Haussmann à l'envers, moi je n'entends personne, je repense à hier. Bien sûr on me klaxonne sur Haussmann à l'envers, je n'entends personne, je repense à hier, je repense à hier.
Clio sur RKS, Haussmann à l'envers. Sébastien Berger.
Alors, Miroir des sciences, nous parlons aujourd'hui de jumeaux, de parents d'enfants jumeaux et de l'association Jumeaux et Plus. Jumeaux et Plus organise régulièrement des réunions à l'hôpital, au CHU, pour les futurs parents d'enfants oui. multiples. Ce sont des réunions régulières, importantes.
Oui, alors ces réunions, elles existent depuis 2002. Alors, elles ont lieu environ tous les deux mois, ça dure deux heures. Alors, si on parle hors crise coronavirus, on les réalise effectivement à l'hôpital, à la maternité de l'hôpital, de l'hôpital couple-enfant, avec le docteur Virginie Guigue, qui est gynécologue à l'hôpital et qui s'occupe, qui suit beaucoup de grossesses multiples. En ce moment, on les fait en visioconférence. Voilà. La prochaine, elle aura lieu le jeudi 29 avril à 19h30. Et donc, ces réunions sont ouvertes à tous les futurs parents, quel que soit le lieu de suivi de la grossesse. L'avantage de la visio, c'est que du coup, on peut toucher les familles de tout le département.
Donc, vous êtes j'ai une question de curiosité. Oui. Les familles qui comme Yannick, prennent contact avec vous, elles sont dans quel état d'esprit? Elles sont vraiment affolées, vraiment en demande de ces... Il y a une urgence ou est-ce que c'est assez serein?
C'est très variable.
Oui, ça va dépendre.
On va avoir des gens complètement paniqués et puis on va avoir des gens qui... Beaucoup de questionnements, en fait. Par rapport à l'organisation, les questionnements ne sont pas les mêmes s'il y a des enfants déjà avant ou pas du tout, si c'est une première grossesse.
Justement, un parcours aussi.
S'il y a eu un parcours, effectivement, avec des traitements. Ces réunions, justement, on les a créées, donc ça c'était en 2002, pour répondre à toutes ces questions, parce que les familles ne trouvaient pas les réponses dans leur entourage, ou alors des réponses qui n'étaient pas les bonnes. Et du coup, à l'origine, c'est le professeur Ponce qui était qui gérait le...
Qui est donc ce professeur Ponce?
C'est le parrain de la Fédération nationale voilà. Jumeaux et Plus.
Professeur Ponce qui
est
le
parrain. Et qui a créé le comité scientifique de la Fédé. Ouais.
Voilà, parce que ce sont des questions essentiellement d'ordre médical ou on va dire technique à ce stade-là.
Donc, lui est spécialisé dans les grossesses multiples. Il venait de Paris à l'époque et il avait envie de recréer justement un groupe sur Grenoble. Donc on a travaillé à ce projet-là. Et qui existe toujours, qui fonctionne beaucoup.
Ces réunions, c'est un peu l'occasion du premier contact des familles avec l'association. Et puis, c'est le début d'une histoire. Il y a d'autres événements, d'autres actions que vous menez de contact avec les familles. Vous pouvez nous les décrire brièvement?
Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les familles ne se sentent pas seules, qu'elles puissent trouver un endroit où elles puissent échanger avec d'autres familles. Donc, ça fait quelques temps maintenant qu'on organise tous les mois un café papote au local de l'association, donc situé à Saint-Jean-de-Moiran.
Et Yannick, vous êtes toujours avec nous par téléphone. Yannick Leck, vous avez participé, vous, au café papote?
Oui, oui, on a participé régulièrement. Alors là, effectivement, comme disait Sarah, c'est un peu plus compliqué avec le coronavirus pour l'organisation. Mais autrement, oui, oui, on a participé au Café Papote. Et oui, c'est toujours des moments. Ça nous fait une petite bulle d'air. C'est vrai, quand la semaine termine, le fait de pouvoir échanger, partager, voilà, sur notre fatigue, et puis comme disait Sarah tout à l'heure, sans jugement, et de pouvoir échanger, c'est une petite bulle d'air où effectivement les enfants peuvent jouer ensemble, etc.
Voilà. Alors parlons un peu des enfants. Donc vous êtes père d'une fille et d'un garçon jeune. Ils ont quel âge ?
Alors ils ont 4 ans. Ils vont avoir 4 ans le 18 avril.
Alors la question naïve que je vous adressais quand on préparait l'émission là dans la semaine, c'était est-ce que vous voyez déjà surgir les stéréotypes chez eux ? Est-ce que la fille, alors là je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que votre fille s'habille en rose et votre garçon en bleu ?
Bah, effectivement, on voit déjà pas mal de différences. Alors c'est vrai qu'il y a il y a l'environnement, je pense, qui joue beaucoup. Hein. Aujourd'hui, vous voulez habiller un petit garçon ou une petite fille, c'est très dur de pas trouver des chevaliers sur les habits de garçon et des petites princesses sur les habits de fille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le garçon est plutôt, on va dire, dynamique quand il rentre de l'école. Voilà, il prend un bâton et puis il va se battre avec tous les arbres du jardin. Et voilà, la fille est un peu plus sur des temps calmes, où voilà, elle va chercher à jouer à la maîtresse, etc. Et même pour les déguisements, c'est quelque chose qui est... récemment, il y a eu le carnaval. Voilà, ils ont chacun leur déguisement, mais un déguisement de pirate et de princesse, bah ça s'échange. Et puis le petit garçon, il demande à s'habiller aussi en princesse. Et puis il joue avec sa sœur qui est déguisée en pirate.
Cette proximité limite un peu la différenciation de genre, notamment.
Oui, voilà. Du coup, ils partagent aussi plus facilement les jouets. Chacun a ses Barbies, chacun a ses Ken. Voilà, c'est... Ils partagent tous les...
Ah, Ken et Barbie, voilà des stéréotypes.
Voilà.
Et plus, on va dire, au-delà de cette différenciation liée au sexe, est-ce que vous sentez des personnalités très différentes, ou est-ce qu'ils sont vraiment en miroir et ils se ressemblent finalement dans le fond ?
Non, ils sont pas miroirs, ils sont complémentaires. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une fille et un garçon, mais ils sont très complémentaires, dans le sens où ils vont toujours s'équilibrer, ils vont se chamailler comme tous les frères et sœurs, mais ils sont assez complices, et donc du coup ils évoluent aussi en même temps. Et du coup, par exemple, on voit pour la parole, ils ont un bon niveau d'expression, de ce qu'on nous a dit, hein. On n'est jamais objectif en tant que parents, mais c'est des choses qu'on nous a rapportées. Et parce que très tôt, en fait, ils ont échangé entre eux dans la chambre. Voilà, quand ils ont appris leurs premiers mots, etc., on les entendait dans leur chambre prononcer des mots, et l'autre qui lui répondait « Ah non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, etc. »
Ah, en fait, c'est bien, il y a une forme d'auto-apprentissage, je ne voulais pas dire d'auto-éducation, mais quand même.
Non, non, mais oui, ils se donnent la réplique, et du coup, aujourd'hui, ils s'expriment plutôt bien.
Alors, question à tous les trois, justement, c'est différent de l'éducation de jumeaux C'est différent de... Il y a cette dynamique, cette correspondance qui joue un peu sur leur façon de se développer, de découvrir le monde.
Moi, je pense qu'il faut faire attention. Alors, je vais parler pour ma propre expérience. Moi, j'ai donc un garçon et une fille qui ont toujours été séparés à l'école. Donc, voilà, deux enfants élevés différemment, on va dire, à l'école, entre autres, et avec des niveaux scolaires différents. Il faut faire attention, du coup, parce qu'ils sont du même âge, élevés de la même façon par nous, et avec pas des niveaux scolaires différents. Ils étaient très bons élèves tous les deux, mais au bout du compte, j'ai une fille qui est dyslexique, un garçon qui était plutôt haut niveau. Et ça, il faut faire attention en tant que parent, après, à ne pas souligner cette différence qui est déjà importante, et en même temps, voilà, le rôle de parent, il est difficile, parce que ils comprennent pas pourquoi ils sont différents scolairement, entre guillemets, on va dire. Moi, on s'est pris dans la figure, enfin surtout moi, quand ma fille, le diagnostic est tombé, j'ai eu le droit, mais de toute façon c'est de ta faute, j'étais dans ton ventre, et pourquoi moi je suis dyslexique et pas mon frère. Voilà, donc on va arriver sur ce genre de problématique, et les parents doivent être vigilants là-dessus, à bien élever les enfants vraiment comme des frères et sœurs, enfin comme une fratrie et pas comme des jumeaux, quoi.
Alors, dernière question de Sébastien.
Le temps tourne, une dernière question liée peut-être à l'association et au projet. Est-ce que vous avez des projets en vue, des choses qui vont arriver?
Eh bien, là, on a décidé que même s'il y avait le coronavirus, on faisait quand même des projets et on verrait bien en temps et en heure si on pouvait les réaliser. Donc, il y a la réunion d'information à l'hôpital, il y a une réunion sur l'allaitement le 11 mai, il y a les cafés papotes qui ont lieu un dimanche par mois, en général en début de mois, voilà, ça on les maintient. Alors bien sûr sur inscription en ce moment parce qu'on peut pas accueillir toutes les familles malheureusement. Et puis le gros projet pour l'année prochaine, Claudine sera d'accord avec moi, c'est qu'on a les 30 ans de l'association. Oui. Et puis je pense que ça va être vraiment une grosse fête parce que si on arrive à réunir
avec tous les jumeaux qui ont participé à notre aventure.
Voilà. Donc il va falloir qu'on s'y mette d'ailleurs à réfléchir à ces 30 ans.
Oui, on avait fêté les 10 ans, on avait fêté les 20 ans. Donc
on fera les 30.
Fêté les 30 ans.
Merci. Yannick, peut-être un tout petit mot final?
Sinon, c'est une super aventure, on va dire. Les jumeaux, c'est quand même une super aventure. C'est une bonne surprise. Et voilà. Puis après, l'association, c'est vrai que c'est un bon bol d'air pour nous et puis un excellent partage. Donc, que des bonnes choses.
Bon, Yannick Leck, on vous laisse retourner à votre jardinage. J'ai mes informations. Et on vous remercie tous pour cette séquence. Et dans un instant, c'est Damien Bouévin et sa chronique.
Je t'attends, tu t'étends sur un autre sujet que moi. Je t'espère, je te perds comme un objet, un an et un mois. J'apprends que tu t'éprends d'un plus grand, d'un plus beau. Pourquoi? Je t'écoute, ça me coûte me dire combien c'est chaud dans ses bras. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es. Pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera. Après moi, je veux qu'on soit malheureux. Je sais c'est moi qui t'ai quitté. Toi qui t'aimes, ni Noé, ni refuge. Après moi, le déluge. Après moi, la pluie. Sauf qui peut la vie. Et puis fini. Je m'ébats, tu t'en bats. Peut-on tomber plus bas que ça? Je te cherche, tu te perches. C'est assez de jouer à chat. Je t'appelle, tu m'épelles, et fils et hache-moi la paix. Je t'implore, tu déplores d'avoir cédé une fois, plus jamais. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'aimes. Pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera. Après moi, je veux qu'on soit malheureux. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'aimes. Ni Noé, ni refuge. Après moi, le déluge. Après moi, la pluie. Sauf qui peut la vie. Et puis fini. Ni Noé, ni refuge. Après moi, le déluge. Ni Noé, ni refuge. Après moi, le déluge. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es. Pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera. Après moi, je veux qu'on soit mal. Après moi le déluge. Après moi le déluge. Après moi le déluge. Après moi le déluge.
Alex Baupin sur RKS. Eh ben oui, c'est nouveau. Nous aussi, au Miroir des Sciences, on a adopté les jingles de RKS un peu plus fréquemment qu'à l'habitude. Sébastien Berger.
Eh bien, je vais en profiter pour simplement donner la parole à, à Damien pour sa chronique. Bonjour Damien.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce samedi matin à l'heure du marché ou parfois du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons parlé jumeaux, nous avons parlé jumelles, nous avons parlé de gémellité. Dans cette chronique aujourd'hui, personnellement, je vais plutôt vous parler de tout ce qui est autour de ce que l'on pourrait qualifier de gémellité classique. La gémellité incomplète, en miroir ou même l'inverse de la gémellité. Sébastien, selon vous, de manière très pragmatique, quelle est la définition de jumeau ?
Eh bien, peut-être Layla et Luke Skywalker, puisque nos amis de l'association nous ont soufflé tout à l'heure, nous ont rappelé que c'était eux aussi des jumeaux.
Ah ouais, bien vu.
Eh oui,
bien
c'est vu. Vrai. C'est vrai que c'est aussi des jumeaux. Techniquement, un jumeau est un enfant qui est né en même temps qu'un autre. En tout cas, c'est des enfants qui partagent le même utérus. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être identiques ou pas identiques, mais aussi que si c'est des triplés ou des quadruplés, cela reste des jumeaux à partir du moment qu'ils ont partagé un utérus en commun. Commençons ce petit tour d'horizon des gémellités alternatives avec un premier cas de figure, la superfécondation hétéroparentale. Nous retrouvons là les mêmes acteurs habituels, mais les nombres et les rôles changent et ça change tout. À la base, deux jumeaux dizygotes sont deux jumeaux qui ont grandi dans le même utérus, ne partagent pas le même patrimoine génétique, mais ont le même père et la même mère.
Ça c'est super parce que Damien, avec son côté très pragmatique, très clair, nous redonne les définitions à la fin pour bien redécoder tout ce qu'on a eu pendant l'émission. Génial.
C'est ça. Ils ou elles sont issus de deux ovules provenant de la mère et qui sont fécondés par deux spermatozoïdes provenant du père. Dans le cas de notre superfécondation hétéroparentale, ces deux ovules provenant de la mère sont fécondés par deux spermatozoïdes provenant de deux pères différents. Les deux enfants ainsi conçus sont donc jumeaux ou jumelles et demi-frères ou demi-sœurs. Monozygotes, dizygotes, ce sont là les gémellités les plus connues. En l'occurrence, elles sont synonymes de patrimoine génétique similaire ou différent. Mais saviez-vous qu'il existe un troisième type de gémellité ? Les jumeaux sesquizygotes. Reprenons nos pions et jouons une partie différente. Dans le cas d'une gémellité sesquizygote, nous avons une ovule, issue d'une mère, effet exceptionnel, deux spermatozoïdes différents qui arrivent à rentrer en son sein et à la féconder. Si l'ovule survit à cela, elle va alors se diviser en trois cellules. Un embryon ovule spermatozoïde A, un embryon ovule spermatozoïde B et un dernier embryon ovule spermatozoïde A spermatozoïde B qui lui par contre ne survivra pas. On se retrouve ainsi avec deux jumeaux en grande partie identiques génétiquement parce qu'ils partagent le même ovule d'origine, mais pas complètement. Ni complètement monozygotes, ni complètement dizygotes, ils sont comme un peu deux jeux de cartes dont la moitié des cartes serait dans le même ordre et pas l'autre moitié.
Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire certainement que quand ils sont nés, ils gigotent.
Est-ce qu'il continuons.
Est-ce qu'il est con ?
Non, mais on apprécie la blague. Moi, ça me fait beaucoup rire en tout cas. Continuons notre tour des cas étonnants plus en avant. Chez certains jumeaux monozygotes, celles et ceux qui partagent donc un patrimoine génétique identique, il peut arriver un phénomène rare dit des jumeaux en miroir. Selon vous, Sébastien, quel peut bien être ce phénomène de jumeaux en miroir ?
Je crois que là, vous m'avez complètement perdu. J'ai l'impression d'être dans un... Voilà, vous savez, c'est labyrinthe avec des miroirs, là, justement.
Ou dans la capsule du jumeau de Langevin porté à la vitesse
peut-être.
De la lumière.
C'est le cours de SVT aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien révisé vos cours ?
Allez, dépêchez-vous, Damien, parce que vous allez être attrapé par...
Lors de la formation de jumeaux monozygotes, une ovule fécondée par un spermatozoïde se sépare en deux au tout début de la formation de l'embryon. En résultent deux fœtus au patrimoine génétique identique. Mais si cette séparation a lieu plus tard et que celle-ci est viable, il peut alors se passer un phénomène étonnant. Les deux jumeaux qui se forment sont identiques le long d'un axe. Oui, identiques le long d'un axe. Ce qui veut dire que l'un des deux a ses organes internes inversés par rapport à l'autre. Cœur à droite, foie à gauche. Et enfin, le plus étonnant pour la fin et pour conclure quand même, l'inverse du phénomène de gémellité, le chimérisme. C'est lorsque deux embryons de jumeaux dizygotes finissent par fusionner en un seul fœtus. On se retrouve ainsi avec une personne qui est deux personnes en une. Ça peut donner des cas de figure assez étonnants, comme par exemple un père qui découvre qu'il est l'oncle de son fils. Que pouvons-nous retenir de tout cela? Eh bien qu'au pays des brassages génétiques, beaucoup de scénarios sont permis et que statistiquement sur presque 8 milliards d'êtres humains, beaucoup de combinaisons sont possibles. Alors trinquons nos mugs de café au hasard et à très bientôt.
Et du travail pour en perspective pour l'association Jumeaux et Plus, si je comprends.
Voilà, donc moi j'invite Damien, dont on pourra retrouver la chronique sur notre blog, à régler ses comptes avec nos invités juste à la sortie de l'émission. Le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Merci à Claudine Bevilacqua et Sarah Montaudon de l'association Jumeaux et Plus 38. Merci aussi à Yannick Leck, membre de la dite association et père de jumeaux dizygotes. Merci enfin à Gilles Pison du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Institut National d'Études Démographiques. Un merci encore supplémentaire à Laura Leck pour le montage du plateau et la proposition de ce thème inattendu pour nous dans cette émission. Chronique de Damien Brévin à retrouver sur notre blog, sur WordPress, et vous trouvez le blog simplement en tapant le Miroir des Sciences sur votre navigateur préféré. Le Miroir des Sciences est en réécoute sur les principaux flux de podcasts et sur le site de Radio RKS. À bientôt sur RKS, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.